Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonjour à tous et bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom française du fandom Star Wars. Alors on est dans une configuration un peu particulière aujourd'hui parce que à la fois c'est la première fois que pour une convention avec QC entre guillemets, on est avec l'équipe québécoise et l'équipe française. Donc on est avec Dany Pépin, salut Dany.
Bonjour.
Sylvain, Sébastien Minot et Céline, salut tout le monde.
Bonjour.
Voilà, alors aujourd'hui on va vous faire un bilan de la post-logie Disney dans un cadre poli, correct, contrairement à ce qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Dany qui va vous présenter un peu le podcast si vous ne le connaissez pas encore.
Je pense que la majorité d'entre vous connaissez le podcast, mais pour ceux qui ne le connaisseraient pas, on est un podcast balado-diffusion ici qu'on appelle au Québec. En fait, c'est une espèce de Netflix audio, donc vous téléchargez des épisodes sur vos appareils, vos téléphones et vous nous écoutez quand vous voulez. Comme vous le voyez à l'écran, on a maintenant plus de 600 épisodes sous différents formats. Donc on a notre émission principale qui parle surtout d'actualité, mais on a différents spin-offs selon le sujet qui vous intéresse le plus. Par exemple, si vous voulez voir des épisodes de Clone Wars, on a un spin-off juste pour ça. Ou si vous voulez apprendre des spoilers de films, on a une émission juste pour ça. Donc tout dépendant de vos préférences, au lieu d'avoir un podcast qui discute de tout pendant 3 heures, ben, on segmente les sujets en différents spin-offs. On a aussi récemment des nouvelles capsules faites par notre confrère Francis Pelletier, Star Wars 101, qui a pour but de vous expliquer en moins de 5 minutes un sujet Star Wars. Donc, je vous invite à aller sur notre page YouTube pour ça. Star Wars en direct, on est dans notre 20e année de diffusion, si vous êtes capable de croire à ça. On est le plus vieux podcast Star Wars en activité. Ici, je parle 100% Star Wars. On n'est pas le premier, mais on est le plus vieux qui est encore en activité. Toutes langues confondues ici, là, même en anglais. Comme Sébastien l'a mentionné au départ, on est une équipe internationale, donc on a des gens du Québec, de la France, on a même quelqu'un d'Israël, donc une équipe vraiment très large des deux côtés de l'Atlantique. Star Wars en direct, c'est aussi des animations et des conférences, donc on a fait des Comic-Con de Montréal, on fait Génération Star Wars et Science-Fiction depuis 4-5 ans, je crois, peut-être. Et puis, on a aussi fait le Festival Geek Culture ici au Québec. Aussi, on fait des reportages vidéo. Si vous regardez notre page YouTube, vous allez voir que les deux dernières célébrations, plus particulièrement, on a été très actifs pour vous montrer et vous faire vivre, en fait, la convention par nos yeux, en fait. Et puis, pour terminer, ceux qui s'intéressent, Star Wars en direct a été en anglais même de 2003 à 2007. On a fait plein d'entrevues en anglais avec des auteurs, des acteurs, etc. Qui valent la peine d'aller voir sur nos archives qui sont sur notre site starwars.direct. Mais vous pouvez nous trouver facilement sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux et nous écouter sur Apple, Deezer, Spotify, etc. Je n'irai pas plus loin que ça parce qu'on a très peu de temps aujourd'hui. Donc je vais redonner la parole à Sébastien.
Eh bien, merci Dany pour cette présentation de Star Wars en direct et on va tout de suite entamer notre sujet principal, à savoir on va faire un bilan de la post-logie. Donc dans un premier temps, on va voir déjà si cette nouvelle trilogie est cohérente dans son ensemble, est-ce qu'il y a vraiment un arc narratif qui a été prévu à l'avance ou si les réalisateurs ont fait un peu de ping-pong, voilà. Alors je vais laisser la parole à Sylvain qui va nous en parler dans un premier temps.
Eh bien merci Seb, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je vais avoir une belle réponse de Normand. Est-ce que l'arc de la trilogie, de cette trilogie, est cohérent? Eh bien, je dirais oui et non. Oui, parce que finalement, l'arc principal, c'est le voyage de Rey. Et lui, là, il est cohérent. On a le début où elle est simple ferrailleuse. Et on a la fin où elle sauve la galaxie, où elle finit en héritière des Jedi et future Jedi. Et malheureusement, alors, c'est mon ressenti, c'est la seule chose qui soit cohérente, qui soit fil rouge de cette trilogie. C'est la seule chose qui a été prise en continu, qui a été a priori globalement bien pensée, bien continuée par les différents réalisateurs et les différentes équipes scénaristiques. Eh bien, parce que tout le reste, malheureusement, il y a des grains de sable qui viennent bloquer la machine. On a plein de pistes qui ont été ouvertes dans l'épisode 7, qui ont été prolongées ou modifiées dans l'épisode 8, ou annulées, ou parties dans d'autres directions. Et ça s'est répété avec, avec l'épisode 9, ce qui me fait dire que, alors, chaque film de cette trilogie, et je trouve, pour ma part, très bien, mais quand tu regardes la trilogie en une seule fois, d'une traite, eh ben, ça pose problème. Donc voilà, est-ce que cette trilogie est cohérente? Bah, pas forcément. De mon point de vue, c'est parce qu'elle n'a pas été... L'histoire globale de cette trilogie n'a pas été pensée, à mon avis, globalement par une ou un groupe de personnes avant qu'elle soit mise en prod, qu'elle soit créée. Et c'est ça qui, pour moi, a fait le principal problème. Il n'y a personne qui a chapeauté cette conception de l'histoire qui fait qu'on a eu des relais de réalisateurs, d'équipes scénaristiques et des relais où les gars en fait ont dit ça j'aime pas, ça m'intéresse pas, ça c'est pas terrible, alors je vais modifier et donc c'est pour ça que c'est pas cohérent pour le reste de le reste des arcs scénaristiques de nos personnages.
D'accord.
Pour moi.
Sylvain, vu que le temps est très très limité, je vais te laisser conclure et on va vite donner la parole après à Seb et Céline qui vont donner aussi leur avis sur la cohérence générale.
Bah, je l'ai un peu déjà donné, mon avis et cette conclusion. Pour moi, allez, cette trilogie, si on veut être un petit peu bref, cette trilogie n'est pas forcément cohérente avec elle-même. Voilà.
D'accord. Céline, toi, c'est quoi ton avis sur la cohérence de la trilogie? Rapidement, bien sûr, tu sais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Alors moi, je regrette aussi qu'on n'ait pas quelque part une vision globale de la trilogie avant qu'elle soit tournée. C'est vrai qu'on ressent qu'il y a des petits accrochages, que le 8 a été tourné alors que le 7 n'était pas fini, et inversement, le 9 a été tourné alors que le 8 n'était pas tout à fait fini. Ceci dit, pour avoir revu la trilogie, eh ben, moi je trouve que quand on la regarde de manière assez rapprochée, il y a quand même une assez belle cohérence. On va en parler plus précisément avec les personnages sur comment ils évoluent, mais ils évoluent quand même tous de manière cohérente sur les différents films. Même par exemple, Leia, c'est vrai que dans le 8, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle fait avec la Force, là ? C'est quand même bizarre. » Moi, ça m'avait sorti du film, même quand j'ai trouvé que l'effet spécial était pas très joli. Et finalement, le fait que dans le 9, on nous dise « bah, elle a eu une formation de Jedi », ça remet la scène plus cohérente. Et je trouve qu'il y a plein de petits détails comme ça, où finalement, avec la perspective du 9, finalement, le 8, il y a des choses qui sont plus logiques. Par exemple, dans le 7, on peut se dire « mais pourquoi est-ce que Kylo Ren retient le nom de Finn avec son matricule FN et tout ?» Et si on se dit que Kylo Ren avait senti qu'il était force sensitive, eh ben peut-être que oui, il s'est vraiment très intéressé à son matricule.
Et toi, Sébastien ?
Je suis particulièrement d'accord avec Céline, surtout sur ce dernier point. C'est vrai qu'il y a plusieurs petits détails intricatifs qui ont été malheureusement mis de côté. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est presque le meilleur ami des écrivains lors de la postlogie, ça a été vraiment le D20. Alors, ils se sont amusés, ils ont tiré, ils ont dit « Ah, si on arrive sur certains trucs et tout », et puis pour épisode 9, ils sont tombés sur Palpy. Comme grand méchant. Mais Tout ça pour dire qu'au niveau cohérence, malheureusement, entre le 7 et le 8, il y avait un avancement de la cohérence, mais avec le 9, il y a eu du rétro-pédalage, comme les gens disent sur le chat, et comme Céline le mentionnait, et c'est vrai que c'est venu malheureusement tout foutre la merde. Et ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est que le story group chez Lucas Licensing, chez Lucasfilm, a été créé pour éviter ce genre de problème, et on a l'impression que il a été mis de côté lors des rédactions scénaristiques des films.
Eh ben, quant à moi, j'ai revu les trois films récemment, et je me suis dit qu'en fait, au début, je m'étais dit le plus gros rétropédalage, c'est Luke Skywalker qui attrape le sabre laser en fantôme alors qu'il l'avait jeté avant, donc c'était une sorte de bras d'honneur de J.J. Abrams envers Rian Johnson, et au final, je me dis pas tant que ça, parce que quand même, à la fin de l'épisode 8, Luke, il est vraiment de retour en tant que guerrier, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Là où je me suis dit, il y a peut-être un manque de cohérence, c'est au niveau de Snoke et de Palpatine. À la fin de quand j'ai fini cette nouvelle trilogie, je me suis dit, mais pourquoi Palpatine, il a utilisé Snoke, et pourquoi il n'a pas recréé le premier ordre directement en disant que c'est lui qui était aux manettes, quoi. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que personne dans le premier ordre est au courant que Palpatine est derrière tout ça, et je vois, si c'est Palpatine qui est derrière Snoke qui gère le premier ordre, pourquoi Palpatine se cache du premier ordre ? Et voilà, c'est là que j'ai trouvé une petite incohérence. Mais je pense que J.J. Abrams, après la fin de l'épisode 8, il avait fort à faire, et c'était vraiment pas facile, donc moi je n'en veux pas du tout, et même si effectivement il y a du rétro-pédalage à droite à gauche, ça rend pas la trilogie moins appréciable à regarder, voilà. Moi je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ces films, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus l'esprit Star Wars que dans la prélogie par exemple. Donc voilà, ouais, c'est pas totalement cohérent, on va dire que c'est cohérent pour moi à 75%, mais voilà, ça me cache pas mon plaisir de visionnage. Avant de passer au prochain sujet, je vais juste revenir sur quelques commentaires justement que vous nous dites dans le chat. Donc on a effectivement des gens qui nous parlent de rétro-pédalage entre les réalisateurs, qui se font un peu la guerre entre eux. On va en reparler un peu tout à l'heure. Et voilà, on a aussi des gens qui nous disent qu'ils ont aussi adoré cette postologie, que chacun peut faire à sa sauce. Et que c'est vrai qu'effectivement, on a eu un story group qui était à la base créé pour éviter des incohérences. Et on a l'impression qu'en fait, ils sont là un peu pour faire de la figuration. Voilà.
Et David, notre ami David Dupont, qui mentionne que Palpatine est derrière tous les coups depuis plus de 40 ans, ce qui est quand même un peu... bizarre.
Ouais. Tiens, et en parlant de Palpatine, moi ce que j'ai trouvé, enfin le truc que je trouve vraiment dommage, c'est que Rogue One nous montre que vraiment créer l'étoile noire, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. L'épisode 7 nous montre qu'aussi créer la base Starkiller, c'est une technologie super puissante, on peut détruire plusieurs planètes en même temps, mais il faut quand même concentrer l'énergie d'un soleil. Et là, dans l'épisode 9, c'est un vaisseau, un canon, boum, une planète. C'est un peu facile, quoi. Ça, je trouve que l'armée de Star Destroyer qui peut détruire une planète, ça casse un peu la cohérence générale de toute la saga avec le fait que une super arme, ça se construit pas en un claquement de doigts, quoi. Normalement, c'est plus compliqué que ça, quoi.
Et clairement, dans l'épisode 9, on a un peu l'impression que on va atteindre l'apogée vraiment des méchants, on va dire. Et donc, en fait, on multiplie les forces par 10 000, enfin... 10 000, quoi.
Ouais, c'est un peu trop, quoi.
Ça fait un peu beaucoup. Ils auraient dit par 50, déjà, c'était énorme. et là, il y a 3 ordres de grandeur de plus. Ouais. Puis il y a aussi le fait que, enfin, ces vaisseaux, faut qu'il y ait des gens dedans, non? À la rigueur, ouais. Ça aurait été une espèce d'armée de fantômes de Sith. Ça aurait été complètement fou, mais ça aurait été presque plus cohérent. Parce qu'au moins, c'était magique, et puis voilà, on se posait pas la question.
On va maintenant passer à notre prochain gros point. On va parler des personnages. Donc on va parler des personnages en deux temps. On va d'abord parler des anciens. Et après, on va parler des nouveaux personnages. Donc, comme vous le savez, c'était prévu à l'origine que chaque personnage du Big Three ait son film. Donc, l'épisode 7, c'était pour Han Solo. L'épisode 8, c'était pour Luke Skywalker. Et l'épisode 8, c'était pour Leia. Le décès de Carrie Fisher a... un peu, beaucoup même contrecarrer ses plans. Et moi, je vais vous parler, voilà, on va vous parler ensemble de la place qu'ont ces anciens personnages dans cette nouvelle trilogie. Alors, comme il explique Harrison Ford dans les making-of de l'épisode 7, les anciens étaient là pour... Enfin, pour lui, Han Solo était là pour passer le relais à la nouvelle génération. Et que s'il meurt, c'était pas gratuitement, c'était... il dit, voilà, moi, je veux pas qu'Han Solo meure, je voulais que son retour fasse avancer l'histoire. Et c'est vrai que pour le coup, la manière dont ils ont amené Han Solo, se faire sa mort, ça permet à Kylo Ren de s'enfoncer un peu plus dans le côté obscur, et du coup ça fait vraiment avancer l'arc narratif du méchant principal. Pour moi, là, il y a une vraie utilité. Et pareil, dans l'épisode 7, je trouve que le personnage est très bien utilisé, dans le sens où on voit qu'on retrouve le Han Solo un peu bougon, contrebandier, qui nous a tous fait rêver. Et on sent qu'il a vraiment maturé dans son esprit, parce que voilà, il dit qu'effectivement, les Jedi, la Force, tout est vrai, et il le dit pile poil à l'endroit où il a dit que tout ça, c'était des bêtises, dans le Faucon Millennium, dans A New Hope. Donc il y a vraiment un vrai parallèle à ce niveau-là qui est fait, et je trouve ça vraiment super intéressant. Et enfin voilà, c'est vraiment, en plus, pour moi c'est le Obi-Wan Kenobi de cette nouvelle trilogie. Et Luke Skywalker serait le Yoda, en fait. Parce que voilà, c'est comme Obi-Wan Kenobi, c'est lui qui recueille les nouveaux personnages, et qui va les amener à accomplir leur destin et leur quête. Et c'est aussi lui, comme Obi-Wan Kenobi, qui va se sacrifier vis-à-vis du méchant principal du film pour que les choses avancent. Et c'est exactement ce qui se fait. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment Obi-Wan Kenobi, A New Hope et Han Solo, Ravi de la Force, c'est un peu le même archétype de personnage. Concernant Luke dans l'épisode 8, moi, je vois qu'ils l'ont un peu utilisé comme un Yoda, voilà, c'est-à-dire que c'est un Jedi qui est isolé sur son île et qui va avoir de la réticence à entraîner le nouveau héros, mais qui va finir par le faire, voilà, comme Yoda avec Luke. Sauf que Yoda va être un peu plus complaisant, on va dire, par rapport à Luke qui est vraiment très 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 réticent. Et je sens que, voilà, Mark Hamill, on le sait, il a été très déçu du rôle de Luke dans l'épisode 8. Et je pense que ça se sent un peu dans son rôle, dans son jeu d'acteur, mais pas dans le sens où du coup il joue mal, mais dans le sens où il est aussi triste que le personnage de Luke, quoi. Le personnage de Luke est totalement désabusé. J'ai l'impression que Mark Hamill est un peu désabusé aussi. Ça se ressent dans son jeu. Et ce qui fait que ça le rend encore plus crédible, en fait, dans le film. Et je trouve, du coup, ça sert l'histoire à ce niveau-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, quand même, on retrouve le Luke qui reprend le sabre laser en main et qui se dit, voilà, c'est, l'exil, c'est terminé. Faut vraiment, même s'il va mourir, mais faut vraiment que je retourne sauver la galaxie avec mon sabre laser en main. C'est techniquement un peu ce qu'il fait à la fin de l'épisode 8. Et je trouve que Mark Hamill, du coup, voilà, là, il devait être un peu plus heureux de cette fin, si ce n'est que, voilà, on sent aussi dans le making-of de l'épisode 8 qu'il n'était pas prêt à mourir dans ce film-là. Il était prêt à mourir, mais plus dans l'épisode 9, je pense. Donc je pense qu'il a été aussi déçu de ce côté-là. Mais je trouve que le personnage est bien utilisé, voilà. Et enfin, Leia, elle a, effectivement, dans l'épisode 9, je crois que, finalement, elle a autant de temps d'écran que Han Solo et Luke. À la louche, hein, puisque je pense que chacun doit apparaître 3 minutes, doit faire 3 minutes d'écran à tout casser chacun. Donc pour le coup, c'est vraiment, ils sont un peu les trois égalités dans ce film-là. Donc Leia, moi dans l'épisode 9, j'étais très content de revoir Han Solo, qui, en plus c'est Han Solo qui permet un peu à Kylo Ren de redevenir Ben Solo. Mais je pense que si Carrie Fisher avait été vivante, ils auraient fait cette scène avec une projection de Leia et pas forcément de Han Solo. Voilà. Bon, moi je suis très très heureux d'avoir Han Solo. J'adore cette scène avec Han Solo dans l'épisode 9, je trouve que c'est la meilleure scène de la post-logie. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un vrai raté dans le sens où Leia, elle rencontre jamais physiquement son fils durant toute cette post-logie, et c'est un peu dommage. Voilà. On sent qu'avec l'épisode 9, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour que Leia puisse avoir un rôle important, et au final, elle n'a pas un rôle important au niveau du temps d'écran, mais celle qui déclenche aussi la rédemption de Ben Solo, celle qui le touche par la force, et c'est à partir de ce moment-là que Kylo Ren meurt. Donc c'est un peu, en fait, Leia qui tue Kylo Ren dans le film. C'est ce que... C'est pas Palpatine, c'est pas lui qui sacrifie, c'est Leia qui tue Kylo Ren et qui permet à ce que Ben Solo revienne. Et je me suis même demandé si c'est pas elle qui crée la projection de Han dans l'esprit de Ben à ce moment-là, voilà. Et je vais parler très rapidement des autres qui font leur retour. Chewbacca, voilà, il garde un peu son rôle de la trilogie originale, c'est un peu le sidekick qui est là. Et Lando Calrissian, je me souviens que Billy Dee Williams avait été un peu déçu de ne pas être appelé pour l'épisode 7 et 8, donc là, il était bien content de prendre son chèque, et je pense que il était vraiment là pour prendre son chèque. C'est très sympa de revoir Lando après son rôle... est très 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 secondaire dans l'épisode 9, je trouve, voilà. Mais j'ai assez parlé, je vous laisse la parole à ce niveau-là des anciens.
Alors Sébastien, est-ce que tu crois que ils ont ramené certains acteurs un peu plus tard parce qu'ils avaient des idées de faire des Star Wars Story éventuellement dérivés de ces acteurs-là? Je pense principalement à Billy Dee et puis sa fille, là.
Non, c'est... Bah. A priori, il n'y a jamais eu ça qui a été prévu, il n'y a jamais eu de rumeurs là-dessus, et puis il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de... Ils ont pu 20 ans, donc faire les grandes aventures de Lando Calrissian, quand l'acteur en lui-même, il doit marcher avec une canne, il a plus sa condition physique quand il avait 20 ou 30 ans, tu peux oublier. C'est très peu probable, ça. Pour revenir, oui, sur le rôle des anciens, alors j'ai pas grand-chose à dire de mal sur ceux de Han, Luke et Leia, mais sur Lando, pour moi, c'est plus un caméo. Il est là, et voilà. Il est là, il dit concou, il prend son chèque, et puis voilà. Mais il sert pas plus que ça dans le film, en fait.
Il les accompagne même pas sur...
Voilà, et...
Avec le vaisseau d'Oshi. Enfin, il pourrait, hein.
C'est du fanservice. Lando, c'est purement du fanservice.
Il a cette scène finale avec cette femme, cette jeune femme, où... Ben, si tu sais ce qu'il y a derrière, la scène te paraît moins bizarre, mais si tu sais pas ce qu'il y a derrière, ça fait papy pervers qui se cherche une petite jeunette.
Ouais. Non, mais même quand tu sais ce qu'il y a derrière, tu trouves que... Il pousse le bouchon un peu loin.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et puis surtout, il a 82 ans. Billy Dee Williams, ben Sébastien, tu l'as aussi rencontré à la célébration. On voit qu'il est, il est pas au top de sa forme, hein, même pour se déplacer et tout. Je pense qu'en fait, il a sorti toute son énergie quand ils ont fait action et après, poum, il a laissé retomber parce que, ben, même quand on le voit en panel en convention, Billy Dee Williams ne dit jamais un mot et on a l'impression qu'il s'endort en fait. Donc là, j'étais assez surpris de le voir vraiment en forme. Donc il a dû prendre du Red Bull juste avant ses prises, je pense.
Du Red Bull, de la drogue, n'importe quoi.
Du coup, je vais préciser quand même pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est que normalement, dans les romans, Lando a un enfant qui a été enlevé et qui est devenu probablement un Stormtrooper. Donc c'est probablement sa fille, en fait.
Et voilà, le temps continue à tourner, il faut qu'on passe notre prochain point. Je pense qu'on a fait le tour avec les anciens, et maintenant on va faire le tour des nouveaux.
Je voulais juste
Céline qui prend la parole. De toute façon, c'est à toi la parole, Céline.
Alors, je vais juste finir sur les anciens pour dire que... Léa n'a pas un temps d'écran énorme sur l'épisode 9, mais ce qu'ils ont réussi à faire déjà, c'est fantastique. Et puis, dire que la façon dont ils ont fait sa mort, en fait... Moi, je suis toujours très très émue, alors que paradoxalement, sur la mort de Han Solo et sur la mort de Luke, j'ai pas beaucoup d'émotions, alors que bah, je pense que je les aime tous les trois, autant les uns que les autres. Donc, c'est que le moment d'émotion est le plus réussi.
Parce que là, l'actrice est vraiment morte au fil de ses
états. Alors, peut-être que ça joue, mais je pense que c'est aussi qu'il y a un moment de deuil sur les autres personnages, et que moi, je fonctionne aussi beaucoup par empathie. Et donc, voir la tristesse des gens, ça m'imprègne plus.
Et bien, place aux nouveaux maintenant, Céline.
Donc, sur les nouveaux, je vais commencer par le Big Three. Donc, je vais commencer par Finn. C'est à la base, juste, voilà, un ancien Stormtrooper qui s'enfuit. Dans le set, c'est globalement un fuyard. Dès qu'il a l'occasion, il essaye de fuir. Dans le 8, au début, c'est un peu la même. Et puis il prend petit à petit un tournant au contact de Rose, il est prêt à se sacrifier devant le canon. Donc on a une belle évolution du personnage. Dans le 9, on commence à nous montrer qu'il est sensible à la force. Ça reste discret, hein. On a juste le fait que des fois il ressent des trucs à propos de Rey, à propos du canon, tout ça. Et puis, on apprend aussi qu'il y a un exemple pour les Stormtroopers qui pensent à se rebeller. Que ça lui donne vraiment une stature de héros en soi. Voilà, on a Poe, lui c'est le pilote héroïque avec un super humour, un peu comme Han Solo dans la trilogie originale. Finalement, c'est le seul qui avait pas un passé mystérieux dans le set, donc ils en avaient profité pour lui faire un background un peu dans l'univers étendu. C'était fils de rebelles, de la bataille de Yavin et tout. Dans le 8, on a une nouvelle évolution où il devient un peu la forte tête aussi. Il obéit pas, il fait des plans derrière Holdo et tout. Et finalement, il apprend de ses erreurs et il devient le grand leader de la résistance dans le 9. Et par contre, dans le 9, on nous apprend qu'il était passeur d'épices quand il était jeune. Donc bon, est-ce que c'était sa crise d'adolescence ou est-ce qu'on a introduit une belle incohérence? Le story group nous le dira. Et puis bien sûr, bah, comment parler du Big Three sans parler de Rey? Rey, c'est la grande héroïne de la nouvelle trilogie. C'est la première femme Jedi de premier plan dans un film. C'est un personnage qui est totalement parallèle à Luke. C'est un héros aux mille visages tel que Joseph Campbell le définit, c'est-à-dire le héros avec des origines mystérieuses, avec des pouvoirs magiques instinctifs. Dès le 7, elle commence à déjà utiliser la force, notamment le contrôle mental. Voilà, elle a un destin très très parallèle à Luke, elle est sur sa planète désertique, il y a un droïde qui lui tombe dessus avec un indice qu'elle doit ramener à la rébellion. Enfin, je vous fais pas le dessin, mais c'est vraiment, vous prenez le scénario, puis vous corrigez Luke, vous écrivez. Ça fait le 7 quand même, hein. Et puis en fait, après, dans le 8, on la retrouve, elle essaye de se former avec Luke. Alors comme tu disais Sébastien, bah au début Luke il veut pas trop la former, mais finalement Yoda il avait fait pareil avec Luke. Donc on a encore un parallèle. Et puis, une nouveauté par contre, c'est le lien qu'elle a avec Kylo Ren. Il y avait un lien entre Luke et Vador, mais là, on a poussé à son paroxysme ce lien, vraiment, et jusqu'à l'épisode 9, où on voit la dyade qu'elle forme avec Kylo Ren. Donc, j'enchaîne direct sur Kylo Ren. Donc Kylo Ren, lui c'est un peu l'image de Vador dans le 7, c'est pareil, c'est la figure du méchant, mais en fait il y a aussi une figure plus mystérieuse, plus haute, Snoke, alors que dans la trilogie originale c'est l'empereur qu'on ne voit pas non plus dans les tout premiers films. Dans l'épisode 7, il tue son père pour s'éloigner du côté obscur, du côté clair, pardon. Ça c'est peut-être une nouveauté en fait qu'on a là, c'est que jusque là on nous parlait de gens du côté clair qui étaient tentés par le côté obscur, et là pour la première fois on a quelqu'un du côté obscur qui est tenté par le côté clair. Donc ça c'est totalement une nouveauté d'avoir un personnage tourmenté comme ça dans Star Wars. D'ailleurs dans l'épisode 8, il ne se résout pas à tirer sur Leia, donc on sent quand même qu'il y a encore un peu de bon en lui, ou en tout cas il a un lien encore avec sa mère, ce qui va faire un lien forcément avec l'épisode 9, où comme tu disais Sébastien, bah, c'est Leia qui va le sortir de son côté obscur, qui va réveiller le Ben qui est en lui, alors même que entre l'épisode 8 et l'épisode 9, en tuant Snoke, il devient le leader suprême, et en fait, du point de vue méchanceté, on va dire, il prend de l'ampleur. Donc il prend de l'ampleur de façade, puisque d'un autre côté, son côté clair commence à se révéler. Et à la fin, il y a le sacrifice ultime envers Rey. Donc en fait, finalement, au lieu d'être le grand méchant de cette postlogie, c'est aussi... celui qui sacrifie tout, et finalement, un peu comme Vador, qui est celui qui tue l'empereur.
Eh ben, merci Céline. Très rapidement, on se fait un petit tour des nouveaux personnages, ce que vous en avez pensé. Sébastien, toi?
Ben, je suis d'accord avec beaucoup de points que Céline a rapportés, et puis je vais revenir, puis je vais redire qu'il y avait un manque flagrant de backstory sur les personnages. Donc, si on avait eu un peu plus d'histoire sur les personnages qu'ils essayaient de nous apporter, ou si on avait développé ce background-là après la sortie du premier film, je pense que ça aurait beaucoup aidé à apprécier les personnages dans les films qui sont suivis par la suite. Mais au final, on voit que c'est une espèce de torche qui est passée entre les personnages de la de la trilogie originale avec les nouveaux personnages de la trilogie Disney. Et même Pablo Hidalgo l'avait dit lors d'une conférence pendant une croisière Star Wars Day at Sea il y a 4 ans, que c'était le but du premier film, c'était d'introduire les nouveaux personnages et de passer un peu le flambeau là, d'une génération à l'autre. Et puis c'est là qu'on voit, et puis je sais que ça va faire suer notre ami Paul, mais on voit encore le parallèle avec la prélogie et la postlogie où on voit que c'est développé pour une certaine génération. Donc, c'est une nouvelle génération de fans qu'on allait chercher avec ça. Mais au niveau des personnages, je trouve que c'est dommage là, qu'on n'ait pas eu beaucoup plus de développement que ça. Même s'ils nous ont sorti quelques trucs, ils n'ont pas sorti des trucs assez profonds pour nous faire vraiment nous attacher au personnage.
Ben merci Sébastien. Sylvain, très rapidement.
Je suis dans quasiment du même avis que Seb. On a plein de pistes qui nous ont été données, qui nous ont été présentées. Il y en a peu qui aboutissent. Il manque plein de trucs. Pour s'attacher réellement au personnage, pour comprendre leur motivation, pour... J'aime beaucoup Rey et Kylo, je m'attache moins à Poe et Finn, parce qu'il y a cette absence, pas forcément de background, mais il y a cette absence de fil continu, j'ai un bilan mitigé en fait sur ces nouveaux persos quasiment. C'est ça moi qui m'embête le plus là-dedans.
Eh ben moi me concernant, je suis pas forcément tous d'accord avec tout le monde, c'est que à part Rey qui est vraiment un peu l'archétype décalqué de Luke au féminin, je trouve que ben tu vois Finn c'est un Stormtrooper, c'est la première fois qu'on a normalement les Stormtroopers c'est des figurants, là ça devient un héros. Poe Dameron c'est un pilote de X-Wing qui est mis en avant, normalement les pilotes de X-Wing Wedge c'est le plus important d'entre eux, il fait 3 minutes d'écran en tout cas c'est dans les films. Là c'est un des personnages principaux. Et on a un méchant qui attire vers la lumière. Donc je trouve ça hyper original de la part de Disney et un peu couillu quoi. Et je respecte à fond. Et c'est pas parce qu'on n'a pas énormément de background de leur part que ça me dérange plus que ça. Han Solo, on sait que c'était un contrebandier. Luke, c'était un fermier, qu'il avait un père qui était Jedi. Et puis Leia, là, voilà, c'est une sénatrice. Mais on n'en savait pas forcément plus que ça quoi. Donc là, Finn, en fait, même il y a pas son background, c'est normal. Il a été Stormtrooper toute sa vie. Il y a pas besoin d'en savoir plus. Rey. Elle en a pas, mais ça fait justement partie, c'est tout l'arc de l'histoire, en fait, le background de Rey, donc ça, c'est normal. Poe Dameron, c'est un pilote de la Résistance, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, donc moi, ça me dérange pas. Moi, les deux personnages qui m'ont vraiment plu dans cette trilogie, c'est Poe Dameron, parce que je trouve que c'est un personnage nonchalant, j'adore son côté un peu nonchalant, j'adore son côté Han Solo, voilà, clairement, c'est un peu comme Han Solo, c'est pour ça que ça me plaît, voilà.
C'est étonnant.
J'adore Poe Dameron, et puis, pour avoir rencontré Oscar Isaac, c'est quelqu'un d'adorable, donc ça me fait que plus aimer Poe Dameron, et Kylo Ren, je trouve que le concept même du personnage, je trouve ça génial. Personnage qui est attiré par le côté lumineux de la force, alors que c'est un méchant, je trouve ça hyper original. Et je trouve que son arc narratif est vraiment super. Sa chute, sa rédemption, c'est très beau. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il meurt à la fin, parce que je trouve que c'est un peu gratuit le fait qu'il meure. Et ça aurait changé du destin de Dark Vador, qui lui aussi se sacrifie pour sauver son fils. Malé se sacrifie pour sauver Rey. Ça aurait été plus original de le laisser en vie et pourquoi pas faire des petits solos avec Rey, quoi. Voilà. Et après, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais alors respect total pour l'actrice. J'ai rien contre Kelly Marie Tran, mais Rose, oh là 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 là, pire personnage qui existe dans Star Wars. Quand j'ai regardé l'épisode 8, je me dis qu'en fait tout ce qu'elle a fait ça aurait pu être Poe Dameron qui le fasse avec Finn au final. Et j'ai l'impression que c'est le personnage quota qui a été mis là parce qu'il fallait un quota de personnages. Il n'y avait pas de personnage asiatique, ils l'ont mise là, voilà. Et j'ai rien contre l'actrice, elle a été bâchée sur internet, la pauvre, elle mérite pas ça, en plus elle joue pas mal du tout, hein. C'est juste le personnage que je déteste, et c'est le pire personnage de Star Wars pour moi, et je pense c'est...
Attends, entre, attends. Le plus gros défaut, entre Rose et Jar Jar, attends, va
pire que Jar Jar Binks,
là il y a Jar Jar, et la Rose tu la vois pas parce qu'elle est encore en dessous.
Je suis pas d'accord avec toi, je pense que... moi j'aime bien cet arc de Canto Bight, il y a plein de gens qui disent mais ça sert à rien. En fait, moi, j'aime bien le fait que ça serve à rien. Des fois, les personnages, ils se plantent.
Mais en fait, ça sert pas à rien, ça sert à quelque chose. Ça sert à donner une perspective à Finn, qui est une perspective qu'il n'y a pas depuis qu'il a rejoint la Résistance. Et sans cette perspective-là, il n'aurait pas fait justement le saut qu'il fait à la fin de vraiment dire oui, je fais partie de la résistance.
C'est pas faux, c'est pas faux. Mais quand ils disent ça valait le coup de libérer les chevaux là dans la ville, on a tout cassé. En fait non, en fait les enfants vont être encore plus des esclaves, ils vont tout réparer en 24 heures. En fait, vous avez rien fait, vous avez juste empiré la situation.
Ça on peut dire ça de n'importe quel film de super-héros comme Avengers où ils vont tout planter dans New York. Bon. Revenir rapidement sur un truc pour au niveau des nouveaux personnages, vu qu'on a quelques petites minutes, Seb, je me permets de passer aux personnages qui n'ont pas été suffisamment développés. Donc, je pense à Snap Wexley, qui a une trilogie de livres écrite sur lui qui nous donnerait envie d'en savoir plus. Et puis, on le voit à peine dans le dernier film, il se plante. Donc, ça, c'est vraiment absurde. Et l'amiral Holdo aussi, qui aurait pu être une remplaçante incroyable à Léa si il l'avait gardée en vie et que c'est Akbar qui avait fait le sacrifice. Et ça aurait fait tellement un effet incroyable pour les anciens fans de voir l'amiral Akbar devoir faire un sacrifice comme celui qu'Holdo fait, que de le faire avec quelqu'un qu'on connaît à peine, je crois que ça aurait été vraiment incroyable.
Ah, je pense que s'ils ont fait le sacrifice pour Holdo, c'est pour justement augmenter la voilure de son personnage, quoi. Mais en effet, je pense que s'ils avaient su qu'ils auraient besoin d'une remplaçante de la princesse Leia dans l'épisode 9, ils auraient probablement pas fait ça comme ça dans l'épisode 8.
Mais le temps continue à tourner, ouais, je suis le timekeeper, c'est un peu chiant, je coupe les conversations. Il nous reste 20 minutes d'émission et on a encore deux points à traiter. Donc là, je vais passer la parole à Sébastien Minot qui va nous dire, est-ce que cette nouvelle post-logie apporte quelque chose à l'œuvre de George Lucas?
Alors, je vais tout simplement reprendre le thème des TED Talks. Il faut dire une chose trois fois pour que ça soit bien compris. Non. Non. Non.
Est-ce que ça en fait une mauvaise chose?
Je ne crois pas que ça en fasse une mauvaise chose. Je crois qu'au final, la post-logie, on peut la prendre avec ou sans l'œuvre de George Lucas. Je me suis beaucoup penché sur la question et j'ai vraiment pris le temps de répondre à la question en tant que telle. Moi, pour moi, est-ce que ça apporte quelque chose à l'œuvre de George Lucas? Et non, je ne crois pas que ça apporte quelque chose à l'œuvre de George Lucas. Est-ce que ça y en enlève? Je crois pas non plus. Malheureusement, on est passé à côté d'une opportunité incroyable de développer les personnages qui avaient été introduits dans l'œuvre de George Lucas. Donc, on aurait pu continuer vraiment la saga des Skywalker, vraiment aller plus loin avec Luke, avec le développement de Luke comme maître Jedi. Je crois qu'il y a beaucoup de fans qui auraient aimé voir ça. Ça aurait vraiment pu être très intéressant et on aurait pu faire une postlogie où justement on voyait la perte de Ben Solo, la descente en enfer de ce dernier et son retour vers la lumière sauvé par Luke ou à la fin ou un truc comme ça. Donc je pense que ça aurait pu être intéressant. Au niveau de l'avancement des personnages, c'est là qu'on voit que justement, comme je disais un peu plus tôt, il y a eu ils ont passé le flambeau, donc ils ont tout simplement pris le premier film pour introduire des nouveaux personnages, et à ce moment-là, on a commencé à faire avancer les personnages de Disney, mais on a comme délaissé les personnages de l'œuvre de Lucas, les personnages classiques qu'on connaissait bien, en frais d'avancement, là, et on a fait comme plus si ça faisait quelques années qu'ils étaient à la retraite, et puis on allait sonner à leur porte, et puis on leur demandait « Hey, comment allez-vous? Et qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années? » Donc ça, j'ai trouvé que ça allait être un petit peu un aspect décevant, qui justement enlève de toute l'histoire du développement du héros de Luke Skywalker depuis sa naissance là, dans les années 70. Et ce développement des nouveaux personnages-là fait qu'on abandonne un peu les anciens personnages, malheureusement. Comme tu disais, Seb, il y avait peut-être 3 minutes de temps à l'écran là, pour les personnages principaux dans le dernier film. Et je trouve ça un petit peu désolant parce que justement, on s'éloigne d'une histoire générale pour définitivement en apporter une autre sur laquelle on va pouvoir maximiser du merchandising, faire du marketing, faire du développement de produits. Et je crois que c'est là qu'on voit la différence entre Lucas qui décide de raconter son histoire et Disney qui décide de faire le plus d'argent possible pour se repayer les 4,5 milliards de dollars qu'ils ont payés pour les films. J'ai une de mes amies qui trippe incroyablement sur BB-8. C'est une critique de cinéma et elle s'est faite embourber par tout le merchandising derrière BB-8 et le marketing derrière BB-8. Et je trouve que c'est quelque chose justement qu'on voit un peu trop avec cette nouvelle trilogie qui vient justement enlever de la magie de ce qui avait été réalisé par George Lucas dans les années 70 et 80. Donc, d'un côté, on avait quelqu'un qui vendait des trucs pour pouvoir continuer à raconter son histoire. Maintenant, c'est un peu inversé. Donc, ça, c'est un petit peu... c'est triste. Sébastien, tu parlais justement de Ben Solo et un aspect qui est intéressant que il nous le ramenait du côté obscur vers le côté lumineux. C'est pas quelque chose qui est inconnu dans l'univers de Star Wars. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et la première fois qu'on l'a vu, c'est évidemment Anakin Skywalker qui passe de Darth Vader à Anakin dans Le Retour du Jedi. Est-ce là la raison du titre? Moi, je maintiens que c'est pas partiellement une des raisons du titre de ce film. Mais ce que j'ai aimé de cette postlogie, c'est justement que ça valide l'idée de la possibilité de la rédemption. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manquait ou qui était peut-être un peu flou dans l'univers de Star Wars. Et maintenant, c'est dur comme béton. Ensuite, pour mentionner un point au niveau du développement de l'œuvre de George Lucas, que Danny nous mentionnait hors d'onde, très bonne idée Danny d'ailleurs, merci, c'est que dans les années 70, Lucasfilm a explosé au niveau des idées de comment réaliser un tournage pour une histoire qui se passe dans une galaxie très 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 lointaine. Et dans les nouveaux films, on a vu qu'ils ont quand même continué un peu à faire l'avancement des technologies de tournage de films. Ils ont réutilisé des anciennes technologies pour les marier avec des nouvelles et faire des films qui visuellement étaient quand même des joyaux. Donc oui, cinématographiquement parlant, ce sont tous d'incroyables films et je crois que ça vaut la peine de le souligner. Mais est-ce qu'ils ont évité de faire le portfolio qui était épisode 1 pour présenter leurs possibilités de tournage ou d'effets spéciaux? Oui. Donc ils ont quand même bien joué leur jeu de ce côté-là. Donc pour revenir au final, est-ce que ça l'a vraiment fait avancer l'œuvre de George Lucas? Je ne crois pas. Je crois que la postlogie peut être prise autant dans toute la saga Skywalker, les 9 films. On peut les prendre ensemble, on peut les tolérer ensemble, on peut philosopher un peu sur tout ce qu'ils sont ensemble, mais on peut tout aussi bien réécouter la trilogie originale et s'en contenter, ou la prélogie et la trilogie originale et s'en contenter aussi, sans avoir de regrets quelconques.
Ben merci Sébastien. On va laisser la parole aussi à Céline et Sylvain très rapidement sur le sujet aussi. Alors allez, honneur aux femmes, Céline, à toi de me dire si tu penses que George Lucas, si cette postlogie ajoute quelque chose à l'œuvre de George Lucas.
Je suis assez d'accord avec Sébastien. On peut prendre les choses séparément aussi. Moi, je suis une bonne public de Star Wars, donc avoir du Star Wars, ça me plaît toujours. Et je crois que ce qui me plaît encore plus que d'avoir des films Star Wars, c'est qu'il y a un engouement Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a les films qui sortent, mais il y a aussi des très bonnes séries comme Star Wars Rebels, comme Le Mandalorian, et que finalement, Disney, ils ont fait des films pour faire de l'argent, mais surtout, ils ont apporté des choses aux fans. Et ça me plaît.
Merci. Sylvain, toi ?
Eh ben moi, je suis comme mes collègues, je suis un peu dans la même situation. Je suis un peu déçu que cette trilogie soit un peu moins bien que les autres,
qui manque de profondeur.
Non, plus un peu plus détachée en fait, un peu plus indépendante que les deux autres, mais. Je serais pas là si j'aimais pas Star Wars. Je prends plaisir à les regarder, je prends plaisir à lire les bouquins, à lire les comics, à jouer aux jeux vidéo, à regarder Mandalorian, Rogue One, même Solo si vous n'aimez pas c'est moi qui ai raison, et voilà. Donc, elle prolonge l'univers, elle l'amène, elle ouvre peut-être d'autres pistes, mais... Bah, hey, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est une autre pierre à l'édifice, et j'adore ça, donc je vais pas me plaindre.
Et me concernant, alors, est-ce que cette postlogie apporte quelque chose à l'œuvre de George Lucas, comme dirait Sébastien? Pas forcément. L'histoire principale avec l'épisode 1 à 6, ça se tient complètement, ça pourrait vraiment être la vraie fin. Après, est-ce que ça apporte quelque chose à Star Wars? Carrément. Ça a même sauvé Star Wars, en fait, j'ai envie de dire, parce que sans le rachat à Disney, est-ce qu'on serait là en ce moment en train de faire un podcast sur Star Wars? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Et même si l'arc narratif des Skywalker peut se terminer à l'épisode 6 ou à l'épisode 9, chacun selon sa vision des choses, et ben voilà, comme l'a dit Céline, ça a apporté une multitude de choses dans le lore de Star Wars, et ça va, même si la saga Skywalker est terminée, grâce à Disney, on va avoir plein d'autres contenus, et je pense qu'ils font du contenu pour toutes les cibles, à savoir les plus jeunes avec, par exemple, Star Wars Resistance, les fans de la trilogie originale avec Mandalorian, ceux qui aiment bien à peu près tout ben, avec la postologie, et il y en a pour tout le monde aujourd'hui, je pense. Et il ne faut pas voir Disney comme des méchants qui veulent que de l'argent, parce que George Lucas, et lui-même le dit, il est devenu un peu comme ça avec la prélogie, donc en fait, ils font juste la continuité de ce que faisait George Lucas. Donc moi, cette postologie, même si, voilà, elle a finalement, elle apporte pas forcément quelque chose à l'œuvre de George Lucas, elle apporte énormément à Star Wars. Voilà, ce serait ma conclusion. Et il nous reste 5 minutes grand max avant notre conclusion pour parler un peu de vos commentaires. Alors moi, j'ai vu un commentaire qui m'a pas plu. Je vais vous le dire, alors, j'ai pas le nom de la personne qui a posté ce commentaire, mais c'est quelqu'un qui a dit « J'ai pas vu l'épisode 9 au cinéma, je l'ai juste vu en streaming et en accéléré, c'était un supplice. » Ben non, désolé, tu n'as pas vu l'épisode 9. Un Star Wars et même un film en général, ça se découvre au cinéma dans les meilleures conditions. Après, on peut juger si on aime, si on n'aime pas, mais on peut pas juger un film en le regardant en diagonale sur son ordinateur. C'est pas possible de dire ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est tout pareil. Oui. J'ai pas vu le. Alors, je serais pas aussi catégorique que toi du. Il faut absolument avoir les fesses dans une salle de cinéma, mais. Déjà,
ouais, mais il faut le voir en entier,
déjà,
moindre des choses.
Quand je vois déjà, j'ai regardé le film en accéléré et en diagonale, en faisant la vaisselle, le ménage. Ouais, bah, t'as pas vu le film, quoi. Donc voilà. Je sais pas qui a dit ça, mais si t'es encore là dans le chat, j'ai 2-3 trucs en tête, mais je le dirai pas parce qu'il y a plein de public là, et je vais me faire engueuler encore.
Alors moi, je vais dire que quand même, moi, ça m'est arrivé de diagonaliser des films, et si tu le diagonalises, c'est qu'en fait, t'as pas assez accroché, donc peut-être que, en effet, la personne, elle l'aime pas, et puis voilà, c'est tout, ça peut arriver de pas aimer un film.
Tu peux pas aimer un film si tu l'as pas vu en entier, tu t'aimes pas ce qui est l'univers d'un film, genre, toi, je sais pas, Twilight, la pire saga du cinéma, et ben, si je le regarde, je le regarderai en diagonale, mais je sais qu'à la base, j'aime pas ça, c'est pour ça. Mais je vais jamais, tu vois, ben, les toilettes, j'en parle encore, par exemple, mais je les ai vus en entier, et c'est parce que je les ai vus en entier que je peux dire que c'est de la merde. Et je peux pas dire ça d'un film que j'ai pas vu en entier.
Mais je vais dire que cette personne-là souffre peut-être de John Cynite aigu. Et donc, suite à The Last Jedi, elle refuse de continuer à voir la saga. Et c'est arrivé à plusieurs fans qui, malheureusement, justement, perdent de leur passion et ont comme décroché suite à The Last Jedi. Mais ils devraient quand même donner une chance à l'épisode 9 au complet, sans passer en accéléré. Et s'ils sentent vraiment pas le coup au niveau de Star Wars, de l'écouter, ben à ce moment-là, je pense que clairement, malheureusement, je suis désolé, mais il faudrait peut-être passer à autre chose. Vous avez peut-être perdu votre passion, et puis c'est correct, et ça arrive, et puis c'est bon, quoi. Il y a d'autres séries, il y a d'autres films que vous allez pouvoir découvrir. C'est pas la fin du monde. Mais je suis d'accord avec toi, Seb, sans nécessairement le découvrir dans une salle de cinéma, comme disait Sylvain, le découvrir chez soi, ça peut quand même faire une bonne impression. Mais oui, le découvrir dans une salle de cinéma et encore plus entouré de fans, c'est une expérience complètement différente.
Bon, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 8 minutes. Alors du coup, on est 4. Alors chacun va faire une minute de conclusion sur la postologie. Allez, je commence par toi, Céline.
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme j'ai dit, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir des nouveaux films, d'avoir un nouvel engouement pour Star Wars, plus encore que les films en soi. même si il y a des choses que j'aime pas trop, voilà, moi je suis pas fan de du fait qu'on fasse revenir Palpatine, parce que en général je trouve pas ça génial de toujours faire revenir les mêmes personnes. Je trouve que c'est un manque un peu d'inventivité, mais c'est infiniment Star Wars, après tout, ça avait déjà été fait dans l'univers étendu. Star Wars, ça reste un principe de héros aux mille visages. Dans les héros aux mille visages, dans toutes les grandes sagas, des gens qui on croit qu'ils sont morts et qui reviennent, il y en a des tonnes. Il y en a dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a dans la saga arthurienne, il y en a partout, donc faut l'accepter.
Merci, merci Céline. Je vais passer à toi, Sylvain.
J'étais très content de revoir des Star Wars au cinéma, de refaire en plus un truc que j'attendais de faire depuis longtemps, d'aller voir les films avec Tonton Jeannot. Ceux qui nous suivent savent de qui je parle. Rien que ça, même si la trilogie est pas forcément super terrible, le fait qu'elle ait relancé les Star Wars au ciné, le fait que il y a tout ce nouvel engouement qui est Mandalorian, Disney+, machin, il y a plein de projets, ça m'a quand même fait ultra méga plaisir, et j'espère que des films Star Wars, on en aura d'autres, que ce soit des spin-offs ou d'autres trilogies, ou des one-shots, peu importe, mais j'espère qu'on verra le logo Star Wars encore pendant longtemps.
Et toi, Cilé Sébastien ?
Je vais y aller avec intéressant, divertissant, mais manque de profondeur. Et après, je suis d'accord à 100% avec ce que Sylvain disait. L'aspect le plus intéressant de cette nouvelle trilogie, c'est que ça nous a apporté le développement de Mandalorian, de plusieurs autres séries qui vont venir dans le futur, du film de Solo et du film qui est devenu le meilleur film de Star Wars pour plusieurs fans, Rogue One. Donc juste pour ça, je suis quand même très appréciatif de cette trilogie, et je suis quand même très content qu'on ait pu semi-boucler l'histoire des Skywalker de cette manière.
Eh ben, me concernant, moi, comme j'ai dit, si ça apporte pas forcément quelque chose à l'œuvre du George Lucas, ça apporte énormément à Star Wars. Ça m'a permis de retrouver au cinéma des décennies plus tard mes héros d'enfance. Notamment Han Solo, voilà. Et ça m'a procuré des émotions et de la hype comme vous imaginez même pas. Moi, depuis 2012, ma vie de fan, elle a totalement changé. Je suis vraiment, grâce à ce rachat et à cette nouvelle trilogie, je revis ma passion à 300%. Ça m'a permis aussi de faire des nouvelles rencontres, et les émotions que j'ai eues dans les panels aux célébrations en 2015 avec le trailer de l'épisode 7 et en 2019 avec le trailer de l'épisode 9. 7000 personnes dans une salle avec ces nouveaux trailers, on était tous à hurler de plaisir, à en pleurer tellement on était heureux, et c'est des émotions que j'aurais jamais pu avoir sans cette nouvelle trilogie. Et rien que pour ça, je remercie George Lucas d'avoir revendu sa saga dont il faisait plus grand chose. Voilà. Et je vois que Dany est connecté. Dany, toi, est-ce que tu peux nous dire aussi, toi, vite fait, ce que tu penses, vite fait,
en
minutes?
Ouais, vite fait, en fait, sans le rachat, Star Wars en direct n'existerait même plus, premièrement. Donc, je suis grandement appréciatif de l'achat de Disney, et j'ai été très diverti par la post-logie. C'est pas ma préférée, mais côté divertissement, il y a une rapidité. Moi, je suis pas quelqu'un qui va compliquer dans les histoires, même si j'ai une réputation de l'univers étendu, qu'il fallait que tout soit cohérent, etc. Pour moi, c'est vraiment un bel arc qui met des nouvelles choses pour Star Wars et qui va surtout faire avancer d'autres storylines maintenant. C'est vraiment ça que j'ai hâte de voir, parce que c'était le temps qu'on conclut. Puis je crois qu'ils ont utilisé cette trilogie-là pour faire le pont entre les anciens fans et les nouveaux. Donc les parents qui amènent leurs enfants les plus jeunes, et maintenant Disney va pouvoir faire place à leur contenu, en espérant qu'ils nous en gardent un peu pour les personnes qui ont vécu Star Wars depuis très très longtemps, comme tu mentionnais Mandalorian, et possiblement d'autres séries un peu plus pour la télé qui seraient peut-être mieux ciblées pour les fans de longue date. Donc voilà. C'est mon commentaire.
Eh ben merci Dany, il nous reste 2 minutes, donc il y avait juste une question où on nous demandait dans les commentaires notre personnage préféré. Alors sans explication, qui est votre personnage préféré? Moi c'est Han Solo. Sylvain?
Les clones.
Les clones. Sébastien?
Eh mon Dieu, dans tout ou dans la postlogie?
Oui, tout. Vous nous a demandé
dans tout,
ça.
Tout, Luke Skywalker.
Céline?
Impossible.
Dans mon cas.
C'est beau. Et Danny?
Dans mon cas, trilogie originale Darth Vader, postlogie Kylo Ren.
Ah. Ben merci à tous pour cette heure d'émission. On a réussi à caser tout ce qu'on voulait dire, ou presque, en une heure. Nous, on vous donne rendez-vous avec Star Wars en direct le 4 mai. On vous fait une émission spéciale sur nos meilleurs souvenirs de fans et on vous avait mis à contribution dans les commentaires. Vous nous avez beaucoup commenté vos meilleurs souvenirs, donc on va en parler en onde. Et j'en profite aussi pour faire ma petite publicité pour dire que le 4 mai, il y a aussi l'arrivée de mon documentaire qui s'appelle Star Wars, la révolution visuelle. Ce sera à partir de 18h sur Planète Star Wars et après disponible sur YouTube sur la chaîne de Planet Star Wars. Donc c'est sur les effets spéciaux avec des interviews des légendes d'ILM, de Patrice Giraud aussi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça nous a mis 10 mois de travail. Voilà. Donc de la part de tout le monde, on espère vite vous retrouver pour une prochaine émission de Star Wars en direct et que la force soit avec
Bisous.
Vous. Salut.
Merci.